Voilà.
Je
vous avais envoyé le questionnaire, je ne sais pas si vous avez vu.
Je n'ai pas eu l'occasion d'aller.
Ok, ben, je voulais
donc,
juste
la
vous préparer.
Si vous
d'accord.
Voulez.
Alors, ça part, c'est très basique au départ. Hein. Est-ce que vous pourriez vous présenter en tant qu'enseignant ? Donc, où vous travaillez, depuis combien de temps vous enseignez
Bon ben voilà, ça fait près de 25 ans maintenant que j'enseigne. Dans un premier temps, j'ai été professeur de remédiation à l'école de Pré des Agneaux. Et puis par la suite, j'ai été en charge d'une classe à l'école de Blanquedel. Et donc depuis 24 ans maintenant, je professe ici principalement dans le premier degré.
Oui, c'était ma question. De quelles années scolaires surtout avez-vous enseigné, donc principalement en première, deuxième?
Oui.
Alors, est-ce que votre méthode d'apprentissage de lecture a-t-elle changé dans la même école, dans le temps, ou dans les différentes écoles que vous avez vues? Mais donc, dans ce cas-ci, c'est surtout le Blanquedel.
Absolument. Donc, ici, au tout début de ma carrière, j'ai utilisé une méthode dont je ne me rappelle plus le nom, qui était relativement syllabique, si mes souvenirs sont bons. Et puis, par la suite, on est passé à la globale, qui était en accord avec la syllabique. Donc, c'était une méthode mitigée et on a eu deux, voire même trois méthodes globales et syllabiques que l'on a pu enseigner ici à l'école du Blanquedel. Mmh. Et maintenant, c'est une méthode, je vais dire, purement syllabique, qui se base sur les alphas. Et cette méthode porte le nom de Taoki.
Ça, je connais pas.
Bon, c'est le petit personnage, hein, Taoki.
Ah, ok.
Vous voulez que je vous prenne un livre
Mais j'ai fait les photos du manuel.
Je vous en prie. Oui. Donnez-le à Manu quand vous avez fini.
Ok, d'accord. Ah oui, super.
À loisir, regardez.
Oui. Parce que Manu est repassé avec Madame Pardon, avec les alphas.
Ah, voilà.
Pour la lecture.
Ok.
Et lui, il est dyslexique total. Il est encore en déchiffrement en cinquième primaire. On est loin d'avoir réussi à le faire lire. Mais bon, on va voir. On va voir. Je suis en train de essayer de... Alors, qui, selon vous, détermine la méthode d'apprentissage de lecture? Est-ce que c'est la Fédération Wallonie-Bruxelles, le pouvoir organisateur, la direction de l'école ou le professeur ou autre?
Certainement pas le professeur ou autre. Et je ne saurais pas vous dire si c'est la direction ou le PO.
Ok. Alors, oui, qu'est-ce que vous pourriez me dire sur la méthode d'apprentissage de lecture que vous utilisez donc en classe cette année, Taoki?
Alors, cette méthode se base d'abord sur la syllabique et fait un tout petit peu appel à la globale. Je veux dire, c'est 80-20% et encore, hein, peut-être même 90-10%. Moi, j'agrémente cette méthode pour aider à la syllabique de la gestuelle. Mais ça, c'est un plus à la méthode.
Mmh. Et vous pouvez mieux expliquer par la gestuelle, qu'est-ce que vous entendez par là?
La gestuelle, c'est simplement pour qu'ils intègrent vraiment, non pas seulement visuellement, mais physiquement les lettres, eh bien, on va faire le geste des lettres qui va aider à sortir le son. Et donc, ce ne sera pas juste visuel, ce sera vraiment physique et ils vont s'accaparer la lettre en faisant des mouvements. Et donc, c'est vraiment, on peut le voir, on peut l'écrire, mais on peut aussi le signer. Donc, c'est une manière en plus de l'intégrer.
De l'intégrer. Et est-ce qu'il y a aussi une gestuelle, donc de l'articulation, donc d'imitation de ce que vous faites?
Alors, quand, par exemple, on va voir la lettre L, par exemple, j'avais fortement insisté, parce qu'on n'entend pas toujours très facilement le L, je disais, mais quand vous faites la, le, li, le, lu, où est-ce que vous posez votre langue et vous sentez bien que vous touchez le haut de votre palais? Et donc là, effectivement, pour ce genre de lettres qui ne sont pas faciles à entendre dans un mot, j'essaie de vraiment montrer la manière correcte de poser sa bouche, sa dentition, sa langue.
Okay. Alors, je dis, le départ de la lecture se fait à partir d'une lettre, ensuite d'une syllabe, ensuite d'un mot, qui est une méthode donc synthétique ou phonémique, ou est-ce que c'est à partir du sens d'un mot, donc une analytique ou globale? C'est plutôt, donc, dans ce cas-ci, la syllabique, plutôt.
Oui.
Donc, c'est ça. Est-ce que je dois vous interroger, parce qu'à la fin, avec votre interview, je dois savoir, c'est grâce à celle indice que je sais que c'est la syllabique. Le travail sur la lettre est-elle précédé par une mise en scène du mot, par une phrase illustrée?
Alors moi, ce que je fais habituellement, c'est que je me base sur les prénoms de la classe. Je mets les prénoms, par exemple pour la lettre S, j'avais mis des Louis, Arius, Oscar, compagnie. J'avais fait des dessins, et alors ils doivent deviner la lettre en fonction des mots, prénoms, qui les ont lus et qui les ont déjà intégrés depuis bien longtemps, ainsi que les dessins. Et donc par la suite, quand ils ont découvert la lettre S ici en l'occurrence, eh bien là je commence tout doucement ma leçon en syllabant, en montrant le signe, en faisant les roues du S.
Absolument. Alors comment est-ce que vous travaillez le phonème, plutôt par oral, par écrit et dans quel ordre? Est-ce que vous commencez par l'écrit ou par l'oral?
Par l'oral.
Par l'oral, oui. Et puis ça se transpose, justement, après qu'ils ont assimilé bien l'oral et qu'ils savent le prononcer, qu'ils connaissent, etc., on le transpose en écrit.
Oui, tout à fait. On va d'abord le reconnaître visuellement pour l'écrire, finalement, dans son cahier d'écriture. Donc c'est visuel, auditif, visuel, et puis vraiment graphique.
Oui, oui. Alors, distinction entre phonème, donc le son O, et le graphème, l'écrit, donc O dans toutes les manières, est-elle un point de départ de votre apprentissage de lecture?
Alors, oui et non, parce que ici j'ai vu la lettre O, mais je n'ai pas encore vu le son O. Mais quand je verrai le son O, je mettrai directement les différentes graphies A, U, E, A, U. Ça, effectivement. Okay. Et même certains O qui se prononcent O, un O long, juste avec un O.
Lorsque le son est abordé.
Oui. Mais par exemple, pour le son roux, c'est encore autre chose, bien sûr.
Oui. Hein. Alors, dans quel ordre travaillez-vous l'écrit et l'oral? D'abord le sens, le déchiffrage, l'oralisation. D'abord l'oralisation, puis le déchiffrage, et puis les. Oui. Un, deux, trois. À partir de quel moment introduisez-vous la phrase? Lorsque les mots sont connus, lorsque les lettres sont connues, toutes ou une partie, lorsque les sons sont connus?
Très rapidement, en fait. Hein.
Oui.
Donc, c'est quand on a déjà un capital de lettres, on va pouvoir directement faire des petites phrases. Donc, on va directement rechercher du sens. C'est ce qu'on pouvait, par exemple, critiquer à la méthode syllabique, c'est babobibobu. Mmh. Mais ici, on bifurque sur une méthode globale, même si c'est avec les lettres, mais pour la recherche de sens.
Ok. Alors, comment est-ce que vous travaillez les sons?
De la même manière que les lettres. Donc, on va voir un nouveau son, comme si je voyais une nouvelle lettre. Et pour le graphisme, ben là, ce sera la même chose. Mais c'est le même cheminement.
Oui, ok. Auquel des deux éléments suivants accordez-vous votre priorité? À l'oral ou à l'écrit?
Plutôt l'oral.
L'oral, oui, je pensais aussi.
Plutôt l'oral.
Est-ce que vous travaillez l'oral et l'écrit en fournissant des supports d'outils? Si oui, lesquels?
Pour l'oral et l'écrit?
Oui, ou l'un ou l'autre.
Ben, je vais, par exemple, pour l'écrit, ils ont ce que j'appelle le paysage.
J'ai vu chez Natacha, elle avait la BC en plastifié.
Ça.
Ah,
et
ça.
Et alors, ils ont aussi ceci.
Et ah, ça, c'est
bien. Ce paysage va t'aider à pouvoir écrire l'aide dans les bons rails, et donc surtout avoir la bonne taille de lettre, si elle monte, si elle descend, si elle reste, comme ceci. Et alors, effectivement, comme tu as pu le voir, il y a aussi l'alphabet et les chiffres avec le bon mouvement à faire.
Oui. Alors, construisez-vous des supports d'outils à la lecture et ou à l'écriture avec les enfants en classe? Est-ce que eux participent ou c'est vous qui faites le support et vous leur présentez?
C'est plutôt comme ça.
Oui. Ouais. Alors, est-ce que vous introduisez une dimension sociale et affective à la communication écrite où l'enfant parle de soi? Mais par exemple, moi je l'ai vu pour les prénoms, vous dites comme, enfin, vous prenez quand même les prénoms aussi. Donc
bien
je veux
sûr.
Dire ça c'est soi. Enfin, vous reconstruisez quand même autour de l'enfant.
J'essaye,
oui.
Mais de là à dire que je fais du social affectif à partir de mes apprentissages.
Non. Oui, mais c'est très très tôt pour le faire aussi. Hein.
Voilà, c'est ça. Et bien, par exemple, ici au début de la phrase, je me dis, bah, tiens, il faudra faire alors... Enfin, c'est ce que je faisais en deuxième, tout un temps, c'est que je faisais des petites... Ils devaient écrire ce qu'ils avaient fait durant le week-end. Et alors, dans ce petit carnet, on pouvait le lire auprès des autres enfants. Mais ici, en première, c'est... Non.
C'est trop tôt.
C'est beaucoup trop tôt.
Mais en deuxième, vous tournez autour de leur côté affectif et social quand même.
Oui, oui. Quand j'avais fait ce petit carnet, effectivement. Et puis alors ici...
C'est très très tôt, ils ne sont pas encore capables de... Oui, c'est bien.
Et alors ici, je donne le petit poilu, peut-être Martine t'en aura parlé, le petit poilu en fin de semaine, à l'enfant méritant, et alors ils doivent raconter un petit peu ce qu'ils ont fait durant le week-end.
Et donc, là, le petit poilu, c'est comme le lapin qu'il y avait en maternelle avant ?
C'est le doudou de la classe, je vais dire.
Oui, c'est ça, et qui doit faire les choses avec eux, et ils reviennent avec le doudou, et c'est le doudou qui explique ce qu'ils ont fait en week-end.
Durant le week-end, voilà,
c'est ça. Et c'est aussi pour améliorer le vocabulaire et pour essayer de...
Alors, ici, c'est vraiment, je vais montrer le livre du petit poilu. Je ne sais pas si ça répond vraiment à ta question.
Oui, mais si, parce que ça fait partie justement de...
Tu vois ici,
ah ouais, c'est ça.
Le week-end, ils reçoivent Petit Poilu, et alors ils racontent des aventures du Petit Poilu ce week-end-ci. Ouais. Et alors comme ça, comme tu connais Maxime, ouais. Voilà, Maxime l'a eu ce week-end.
Ah ouais.
Il est là, je crois, il commence
là. Là, ouais. Fait rire,
il était papa.
Oui, tout à fait. Oh ben, c'est trop chouette, ça. Alors, ça, c'est chouette. Construction de l'image de soi-même au travers de l'oral et de l'écrit, est-ce qu'elle vous semble importante? Et si oui, pourquoi? Oui, la construction de l'image de soi-même, enfin, pour l'enfant, est-ce que la construction de son image est-elle, au travers de l'écrit et de l'oral, vous semble importante? Si oui, pourquoi?
Alors, au travers de l'oral, bien évidemment, oui, c'est important, parce que moi, ici, par exemple, en début de journée, je fais la météo intérieure de chaque enfant, et donc ils peuvent se dire, je suis grand soleil, nuageux, très gris, etc., ouais. etc. Et donc comme ça, moi, je sais déjà prendre la température un petit peu des humeurs auxquelles je vais être confronté durant la journée, et c'est très important de pouvoir un peu l'oraliser, parce que quand je vois par exemple un gamin qui avait mis pluvieux, ben je dis, ben tiens, pourquoi est-ce que tu es pluvieux?
Pour mettre des mots sur sa ses sentiments.
Je ne vais pas demander à ceux qui sont en arc-en-ciel bisounours, je ne vais rien leur demander, mais ceux qui sont en tout cas un peu en crise, ben je dis, tiens, mais qu'est-ce qui s'est passé dans tes finesses? Ah ben j'étais chez papa, c'était un peu embêtant, et voilà.
Oui, tout
donc,
à fait. Ouais.
Oui, c'est important qu'ils oralisent, ça,
tout oui, tout à fait. Est-ce que, alors, comment travaillez-vous le sens du mot et ses associations? Par exemple, mère et mère, alors, est-ce que c'est une image orthographique, une image visuelle ou une image auditive? Donc, visuelle, c'est de montrer l'image de la mère et de la mère. Non, pas de souci.
Allô, Caro? Oui, je suis un petit peu en réunion, donc je vais te rappeler tantôt. Ça va? Ok, cool, merci, bisous.
Oui. Donc, est-ce que l'image est orthographique, donc plutôt graphique? Est-ce que l'image est visuelle ou est-ce que l'image est plutôt auditive?
Pour commencer. Ici, de toute façon, je ne vais pas commencer à faire des homophones en première. Si le cas se présente, je leur en parlerai. Et moi, je vais toujours, aimant bien les dessins, faire un petit dessin pour montrer, illustrer la différence. Et on verra... Mère, mère, et le maire du vinaigre. Ouais. Enfin, je ne vais pas rentrer celui-là. Hein.
Ils seront difficiles.
Non, un petit peu.
Alors, travaillez-vous une mémorisation visuelle du mot dans sa globalité?
Oui.
Oui.
Et comment... Il y a quelques mots-clés, en fait, dans cette méthode. Si, en cas, il y a quelques mots-clés à vraiment connaître par cœur. Et ce sont vraiment des mots usuels, des mots liens et ce genre de choses-là. Et donc, ici... À la fin de chaque petite leçon de Taoki, tu as des mots.
Ah, ben,
c'est pas la lettre E, mais c'est dans une. Et ça va vraiment nous faciliter dans la lecture de phrases qui vont être un petit peu plus complexes que juste il y a Taoki. Oui. Mais là, on voit c'est dans et une, allez.
Oui.
Et donc, tu as à chaque fois des petits mots outils à la fin de chaque leçon.
Qu'ils apprennent en tant que mots.
En tant que mots. Et là, c'est vraiment la photographie du mot. Là, c'est la globale pure. Quoi.
D'accord. Oh, oui, tout à fait. Ok. Alors, oui, est-ce que vous utilisez un manuel d'apprentissage? Oui, celui-là, Taoki. Et comment est-ce que c'est fait le choix du manuel?
Nos collègues d'année passée ayant choisi ce manuel, je ne saurais pas te dire s'il est tombé de Dieu le Père ou si c'est un choix conscient de leur part. Et donc, nous avons été priés de poursuivre cette
méthode. Oui, donc c'est une demande de...
extérieure.
Oui, c'est vrai.
Absolument.
Ouais.
Pour ma part.
Oui. Ah oui, ce que je voulais aussi demander, quel est le point qui, enfin, qu'est-ce qui est positif par rapport à utiliser en plus de votre cours un manuel? En quoi ça peut aider, ou est-ce que c'est plus pour des exercices? Est-ce que c'est pour
l'entraînement? Alors, on a une ligne de conduite dans l'apprentissage, et donc ça, c'est confortable, même si on connaît un petit peu la chanson. Donc ça, c'est confortable. Ça nous permet donc peut-être de ne pas pondre une méthode, vu qu'il y en a 36 000 sur le marché. Mais le côté négatif, c'est quelquefois, on court après la méthode. Ça va tellement vite. Quand je vois toutes les leçons que je devrais faire d'ici les vacances de Toussaint, je suis pas staccanoviste. Hein. Mm. Donc voilà, c'est fort dur de suivre leur rythme. Mm. Mais en attendant, c'est positif dans le sens qu'on ne doit pas se dire il y a la lettre A jusqu'à Z. Non, c'est A, O, I, et puis après
oui.
M, S. Voilà.
Mais c'est plus un outil, de référence, enfin un outil supplémentaire qui vous, enfin c'est votre cours et quand vous en avez besoin vous reprenez dans le manuel.
Non, c'est plutôt un outil de base.
Ok.
C'est vraiment un outil de base sur lequel je me calque pour pouvoir continuer mes apprentissages.
Ok, dans l'autre sens.
Oui, okay. Vraiment.
Donc c'est un manuel et deux vous développez.
Voilà.
Ok.
Bien évidemment. Oui, oui, absolument.
Ok. Oui, ça j'ai. J'ai travaillé vous. Ah oui, travaillez-vous par empreinte, donc vous expliquez aux élèves et eux écoutent. Par imitation, vous expliquez et montrez les élèves regardent, écoutent et reproduisent. Ou par conditionnement, donc division de la matière en toutes petites unités d'apprentissage simples pour faciliter la compréhension et l'exécution des tâches.
Je crois un peu des trois, mais la première c'était quoi?
C'était l'empreinte, donc simplement le magistral, donc vous expliquez eux écoutent.
Ça, c'est... Non, pas vraiment. Le deuxième,
c'est. L'imitation. Donc, vous expliquez, montrez, les élèves regardent, vous écoutent et reproduisent par la suite.
Un petit peu plus ça, plutôt la troisième. Ça.
Et la troisième, c'est le conditionnement, donc diviser la matière en toutes petites unités d'apprentissage simples, attendre que ce soit rapide dans l'apprentissage, que ce soit acquis et on passe à la prochaine.
C'est entre la 2 et la 3, ouais. C'est un peu 2 et 3, quoi.
Ok. Parce que c'est des petites unités... Mais ce n'est pas pour une tâche vite, parce que vous prenez le temps que ce soit intégré pour passer à la prochaine,
oui.
J'imagine.
Et puis quand tu vois ici, tu dois reconnaître les dessins, dire ce que tu entends, si tu entends S. Tu vois ici à nouveau un exercice, tu dois lire ici, tu syllabes. Ensuite, tu as quelques mots à lire et puis ça est mis dans les phrases. Donc, ce n'est pas juste une petite chose, c'est plein de...
Des approches différentes,
c'est
ça.
C'est un artifice de demande pour arriver à ses fins.
Oui.
Donc on série quelque part nos apprentissages, mais tout de même, on fait un grand panel. Quoi, hein.
Ouais. Alors, utilisez-vous le socio-constructivisme? Donc, c'est les élèves qui construisent leurs connaissances en lecture et à l'écrit au travers de problèmes qu'ils rencontrent et qu'ils doivent solutionner. Donc, c'est plus dans la pédagogie active, ça. Hein.
Mmh. C'est pas vraiment, dans le sens qu'ici, on a vraiment
non,
ceci.
On a le manuel, tout à fait. Alors, est-il selon vous important de privilégier l'apprentissage de la lecture sur une longue période de reconnaissance globale, donc le sens du mot, dans des supports qui sont liés à la vie, à la situation de vie, pour ensuite passer au déchiffrage, à l'oralisation?
Moi, c'est
tout à fait le contraire. Hein.
Ouais. J'ai jamais fait de lecture fonctionnelle, parce que ça, en fait, ce que tu dis, c'est de la lecture fonctionnelle où on avait des affiches, l'affiche de la fête, je ne sais pas quoi.
Mais nous, de Crowley, c'était ça.
Voilà.
C'était horrible.
J'ai jamais fait ces méthodes-là.
Oh, c'est horrible.
Et j'ai jamais fait de global pure non plus.
Non?
J'ai toujours eu bien mitigé.
Oui. Alors, connaissez-vous la méthode Freinet, qui est une classe coopérative où l'élève apprend à lire et à écrire dans les situations de la vie quotidienne? Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, je connais, mais je ne suis pas expert pour en penser et pour critiquer positivement ou négativement la méthode.
Vous n'avez jamais eu d'élèves qui viennent d'une école Freinet ou de Crowley ou qui est arrivé chez vous et vous... Non, ok.
Je ne peux pas juger.
Oui, juger. Donc, justement, vous savez... En tant qu'enseignant, les méthodes d'apprentissage de Crowley-Freinet, vous ne savez pas...
Alors,
vous connaissez,
je les connais, mais
pas
je
assez,
suis... Voilà,
oui.
Expert.
Alors, considérez-vous le déchiffrage un frein à la lecture?
Ça dépend pour les enfants. Mmh. Ça dépend l'enfant qu'on a en face de nous. Parce qu'il y en a certains qui vont faire... Enfin, par exemple, j'avais une gamine tantôt, c'était S-I-R-O, enfin, le signe. Mmh. Et puis en fait, elle va redire le mot par la suite et va tout dire en un seul tenant. Et donc, ça peut être un frein si on lit bêtement et en anonne tout ça, mais si on le relit, on a bien ingéré les lettres et qu'on puisse les ressortir, ben non, parce qu'il y a vraiment un sens. Et c'est d'abord le sens que l'on cherche. Alors, la syllabation, on sait bien, on est un bon technicien, mais c'est pas ça qu'on recherche, c'est vraiment avoir des gens réfléchis.
Oui, et comprendre le sens de ce qu'on est en train de dire. Ouais. Alors, est-ce que vous utilisez dans votre système d'apprentissage un découpage syllabique avec des analogies comme... Attendez, c'est assez compliqué. Donc, il y a un découpage syllabique par un lexique orthographique qui s'appuie sur des analogies. Donc, au lieu de faire... démonter, on fait dé comme défaire, décoller, etc. Mont, parce qu'il y a montagne, montée, monteur, et able, parce qu'il y a collable, réparable, ou par découpage syllabique, démontable.
Je veux dire le deuxième, mais quelquefois, par exemple, j'avais dû voir le mot dent, et bien sûr, je ne le connaissais pas, et bien j'ai dit, ben, lisez le mot maman, parce que vous entendez maman, vous avez le son en, et c'est comme ça que je suis retombé sur mes pattes. Mais de prime abord, c'est vraiment, on fait de la syllabique pure, mais bien évidemment, pour certaines découvertes, on doit un petit peu piocher dans le capital mot. Mmh.
Ok, intégrez-vous d'emblée le sens en fonction du contexte et le code. Oui, hein, tout à fait. Avez-vous une formation sur les troubles d'apprentissage des élèves en âge d'école primaire?
Non.
Ni en formation, ni par la suite proposée par la direction.
Alors, oui, mais ce n'est pas avec une.
Oui, de trois heures.
De trois heures, je peux me dire, non. Je vais pouvoir pallier aux dyslexies, dyscalculies et compagnie.
D'accord. Êtes-vous attentif à la détection de ces troubles?
De plus en plus.
Oui, ok. Et si oui, comment? Vu que vous n'avez pas vraiment de formation, qu'est-ce qui vous fait.
On va dire grâce à mon expérience, un tout petit peu. On voit vite les enfants divulguer. J'essaye d'être malgré tout vierge des commentaires de mes collègues de troisième maternelle pour ne pas avoir d'a priori. Et puis alors, lorsque je soulève le problème, là je fais appel à l'équipe en fait. Et là on a une logopède à l'école. Je demande aux parents de faire un machin un peu
régulier,
compagnie quoi.
Oui. Ok. Donc oui, si vous avez pensé avoir détecté un trouble, quelle approche favorisez-vous? Donc c'est un contact avec les parents, la direction, l'équipe parascolaire, logopède, c'est un peu un mixte de tout. J'imagine que d'abord vous prévenez les parents.
Oui.
Et puis ça va vers une équipe logopède ou une équipe pluridisciplinaire.
Mais même, je vais te dire qu'avant de contacter les parents, ou simultanément, je demande déjà, on a beaucoup d'aide en classe, c'est quelquefois problématique, parce qu'en fait, j'ai 6, 7, 8 périodes par semaine où j'ai quelqu'un...
Ah oui, de remédiation, mais ça c'est tout nouveau, hein, maintenant pour le Covid.
Voilà, je crois que c'est encore plus prégnant à l'école, les aides extérieures de remédiation, de soutien. Ils vont trouver plein d'autres noms différents, tu vois. Et donc, au bout du compte, on a énormément d'aide. Mais donc, dans un premier temps, je demande à Manon, le soutien extérieur, de prendre l'un ou l'autre gamin. Je contacte les parents. S'ils ne me posent pas un lapin, eh bien, alors là, on peut embrayer. J'ai eu un lapin la semaine dernière. Et alors là, je demande les tests auprès des uns et des autres. On a aussi une certaine Pauline, orthopédagogue,
oui, j'ai entendu ça.
Voilà, qui, elle, vient quelquefois diagnostiquer ou vient observer en classe les gamins.
Mais est-ce qu'elle donne un retour? Pas vraiment. Il paraît qu'elle est là, mais il n'y a pas de... Elle met rien... Enfin, il n'y a pas de suivi.
Alors, on a des beaux casques. On avait un certain moment, je vais dire, un dressing là pour se faire du maquillage sans miroir. Mais c'est vrai que ce n'est pas toujours très, très efficace.
Oui. OK. Si l'enfant a un trouble d'apprentissage diagnostiqué, est-ce que vous mettez en place des outils en fonction de ses besoins?
Oui.
Oui. Donc, et ça, alors vous demandez...
Alors,
C'est qui met en place... Enfin, c'est qui fait la demande d'outils, entre guillemets? C'est la logopède?
Alors, ici, j'ai déjà été en contact avec... je ne sais plus comment s'appelle ce centre à voix fort. Avec une personne qui me disait, tiens, la personne X a un problème. Est-ce que vous pourriez, avoir une feuille dans laquelle on ne voit qu'un petit exercice de manière à pouvoir voir
délimiter la phrase. Ouais.
Voilà, c'est ça. Et donc, j'aurai ce genre d'outil-là. Et puis, surtout, c'est mon travail, comme j'ai des petites classes, individuellement à faire avec l'enfant.
Ok.
Mais on n'a pas 36 000 outils, hein. Ça, il ne faut pas commencer à faire de l'essence. Hein.
Oui. Et si vous pensez avoir détecté un trouble, mais que celui-ci n'est pas diagnostiqué, est-ce que là aussi, vous mettez en place déjà des outils parce que ça vous semble nécessaire?
Oui.
Oui. OK. Ça. Si des outils sont mis en place, le choix des outils est fait par qui? Par vous-même, l'équipe pluridisciplinaire, les parents, la direction ou autre?
Vous et l'équipe. Ben oui, c'est ça. Ouais. Il y a plusieurs personnes qui sont, et même les parents, s'ils viennent avec quelque chose.
Et avec des idées,
Alors, à côté de ça, j'ai rarement eu des parents qui sont venus, mais je ne m'opposerai jamais, bien sûr, à cela.
Ok.
De prime abord, on n'a pas de parents proactifs.
Non, c'est vrai, ils sont...
Pour ici, en tout cas, cette année-ci, même l'année passée, je n'ai pas eu de parents proactifs. Ouais. Je n'ai pas énormément de problèmes, mais...
Ouais. Ah, Natacha, elle est aussi à fond dedans. Hein. J'avais vu pour Arthur, c'était...
C'est lourd, je pense.
Oh, c'est super lourd. Elle est fatiguée, enfin... Mais bon, elle fait parce qu'elle a peur qu'il part dans du non ordinaire et bon, ça va être compliqué.
Je pense que le départ en irlandais n'était pas
bien. C'était pas bon, non. Non, mais elle ne le savait pas et elle a pris. Mais l'école a caché beaucoup. Hein.
Ah oui,
parce que l'école, elle ne leur a rien dit au départ. Au départ, il revenait toujours avec des bonnes cotes et tout. Mais pourquoi? Parce qu'avant l'interro, il lui donnait plus ou moins les résultats et donc, hop, il pouvait retranscrire ou ce qu'il avait en tête.
Donc, il y a cette intelligence de mémoire.
Oui, et c'est comme ça. Et tout à coup, elle a commencé à le faire lire et tout. Elle s'est rendue compte qu'il y a un problème. Donc, elle est allée voir. Et c'est là que ça s'est découvert d'un moment. Et alors, ça s'est passé très, très vite, le changement d'école. Et on a discuté longtemps. Maxime, il est ici à cause du Blanquedel. Parce que je lui dis, moi, je sais une école où ils sont super bien pris en stage. Après, Arthur, je ne savais pas qu'il était à ce point en arrière. Et donc, elle a parlé, je pense, avec Madame Dupri, qui est aussi ses clientes.
Oui, en plus, l'arrosoir est juste à côté. Oui,
et donc, elle lui a dit non pour Arthur, Sainte-Bernadette, parce qu'il est trop, il va pas...
Ah, très bien, voilà.
Mais j'ai dit, mais moi, je suis tellement convaincue du Blanquedel et de la prise en charge de chaque enfant. Et elle a été voir, parce qu'elle a été voir, qu'est-ce qu'elle a été voir comme école, je ne sais plus. Ah oui, l'Assomption primaire.
Oui.
Et lui ont toujours dit, oui, mais enfin, s'il y a déjà des problèmes, parce que c'était en plein milieu de l'année, des problèmes de dyslexie ou chez le frère, on n'est pas sûr qu'on pourra le prendre. Enfin, tout de suite, déjà, oui, dingue.
Donc, il y a cet écrémage qui se faisait à
la base. Oui, c'est fou, hein. Parce que le frère était dyslexique.
Oui, mais j'entends bien, c'est sa source, hein.
Oui, enfin bon.
Donc, il n'était pas asymptomatique, Maxime.
Non. Alors... oui, si pour ces enfants un suivi est-il mis en place? Si oui, plutôt un suivi par l'équipe pluridisciplinaire?
Oui.
Oui, ou par vous, ou par les parents?
Mais moi aussi, hein, je le suis beaucoup plus à la culotte, hein, bien évidemment.
Ouais, parce que vous êtes dedans tous les jours.
Oui.
Ouais. Et oui, à laquelle intervalle, mais de manière hyper régulière, puisque vous l'avez en place tout le temps, donc disons presque quotidiennement.
Oui, bien sûr.
Quotidiennement. Et est-ce que vous voulez rajouter quelque chose par rapport à la méthode d'apprentissage de lecture ici que vous êtes en train d'enseigner au Blanquedel?
Mais comme je te disais, quelquefois, je trouve que ça va un petit peu trop vite.
Ok. Et ça, c'est le programme de la fédération qui fait que ça va trop vite.
Je suppose qu'il doit être agréé par la fédération, oui, certainement.
Et quand vous voyez qu'il y a vraiment un souci... Vous vous arrêtez sur là où il y a le problème et vous travaillez le son ou n'importe jusqu'à ce qu'il soit vraiment acquis avant de passer à l'étape suivante.
Bien sûr.
Ok. Et comment ça c'est juste pour moi. Comment est-ce que vous gérez s'il y a des enfants qui sont beaucoup plus lents et les autres beaucoup. Comment est-ce que vous gérez ça en classe?
Mais déjà ici par exemple à un certain moment je devais lire une petite page dans Taoki. J'ai pris des gamins qui avaient plus de difficultés à côté de moi, et ceux qui se débrouillent très très bien, j'en ai quand même quelques-uns en classe, je leur dis, tu joues au petit professeur. Et donc c'est eux qui vont être tuteurs, vont être responsables d'un gamin qui va lire moyennement. Je pars toujours de trois trains, c'est le coup de Gauss. Hein. Et donc ceux qui sont dans le premier wagon vont aider ceux du deuxième wagon, et moi je suis avec le troisième wagon.
Ouais. Okay.
Et c'est plutôt de cette manière-là que j'essaye de travailler pour pallier pour qu'il n'y ait pas des écarts grandissants.
Ouais. Ok.
J'essaie de faire de mon mieux. C'est pas toujours
des
résultats escomptés qui.
Non, mais je pense qu'il y a aussi, il faut avec chaque groupe d'élèves, il faut essayer.